Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast consacré à l'anarchie fin de siècle et à la question de la propagande par le fait, qui est une critique en acte du pouvoir et on verra la réponse normative opposée par celui-ci. Précision tout d'abord, je parle d'anarchie et non d'anarchisme, car l'anarchie est en tout cas au XIXe siècle, qui est par ailleurs le siècle des idéologies, c'est une pensée en action et pas une idéologie, en tout cas pas encore à l'époque dont je vais vous parler aujourd'hui, elle ne devient éventuellement une idéologie qu'après l'épisode de la propagande par le fait, ce qu'on verra en conclusion de ce podcast. Dans l'histoire des idées politiques en général, dans l'histoire de la pensée socialiste en particulier, l'anarchie a une place à part. Dans cette espèce de mouvement sinistriste des idées avec une poussée constante venant de la gauche, l'anarchie bouscule le libéralisme, le républicanisme, le socialisme, des pensées qui interrogent la forme de l'État, l'organisation du pouvoir, sa légitimité, mais sans jamais remettre en cause la nécessité même de l'État, précisant qu'elle remet aussi en cause la propriété, et pas que la propriété individuelle, ainsi que les solutions représentatives, distributives, proposées pour trouver une réponse à ce qui est quand même le grand problème de ce 19e siècle, à savoir la question sociale provoquée par les ravages de la révolution industrielle et le fait que quelques-uns profitent du travail de tous les autres. L'anarchie se développe essentiellement à partir de la pensée de Proudhon, dont il a déjà été question, 1809-1865, mais ce sont ensuite Bakounine, 1814-1876, Kropotkine, 1842-1921, Reclus, Élisée Reclus, 1830-1905 et d'autres, qui vont associer le discours anarchiste à la pratique révolutionnaire contre le socialisme autoritaire d'un Marx et des marxistes, pour qui la lutte des classes doit déboucher, on le sait, sur une phase de dictature du prolétariat, dictature dont les anarchistes ne voient pas bien comment, à terme, elle peut provoquer la disparition de l'État. La pensée de Proudhon, longtemps centrale dans le socialisme français, marque un reflux progressif dans les congrès de la Première Internationale, qui a existé entre 1864 et 1872, particulièrement après l'épisode de la Commune, mars-mai 1871. L'anarchie est une des tendances de ce mouvement composite de la Commune, dont la répression assumée par le gouvernement de la République, qui avait été proclamé le 4 septembre 1970, laisse la gauche dans une sorte de désert idéologique. La Troisième République, a priori transitoire, si on en juge par la majorité royaliste, qui avait été dégagée à l'issue des élections de l'Assemblée nationale en février 1971, la Troisième République donc se construira sur les décombres de la Commune de Paris, et le droit est rapidement mobilisé pour accentuer la répression contre les socialistes. La loi du 14 mars 1872 criminalise en effet les organisations promouvant la grève, l'abolition de la propriété privée, de la famille ou la religion, et elle crée le délit d'acte d'affiliation à l'AIT, donc la Première Internationale, l'Association Internationale du Travail. Face à cette législation, la gauche est longtemps incapable de s'organiser. Dans les milieux socialistes européens, des réflexions émergent sur la pratique militante à adopter. Les tensions internes au sein de l'AIT, principalement liées à la rivalité entre Marx et Bakounine, s'accentuent au point que le congrès de Saint-Imier du 15 septembre 1872 consacre la scission entre le courant socialiste autoritaire, majoritaire, les marxistes, et la tendance anarchiste, anti-autoritaire, qui est exclue. En France, le socialisme autoritaire entreprend la conquête de l'État par le bulletin de vote plutôt que par le fusil, contre quoi les anarchistes font en sorte d'entretenir la flamme révolutionnaire. Mais outre le fait qu'ils refusent l'organisation partisane avec ses dogmes et ses hiérarchies, qui relèvent d'après eux de la logique de domination, et celle-ci reprend celle de l'État, le constat est fait par certains de l'incapacité des idées à faire advenir, en tout cas à faire advenir seule, la révolution qui réussira enfin à abattre l'État. À l'impuissance manifeste de la propagande par l'idée, certains opposent les vertus mobilisatrices de la propagande par le fait. Telle qu'elle est arrêtée au congrès de Vevey le 12 septembre 1880, la propagation de l'idée révolutionnaire doit se faire en acte, par tous les moyens, y compris terroristes. Sortir du cadre légal et porter l'action sur le terrain de l'illégalité apparaît comme la seule voie capable de mener à la révolution. Kropotkine écrit ainsi « L'anarchie, c'est la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard, le fusil, la dynamite, tout est bon pour nous, qui n'est pas la légalité. Élisée Reclus proclame que, aussi longtemps que la société sera basée sur l'autorité, les anarchistes resteront en état de perpétuelle insurrection. La propagande par le fait est officiellement adoptée le 14 juillet 1881 au Congrès anarchiste international de Londres. Elle est illégale, insurrectionnelle, désintéressée, autrement dit au service de la cause révolutionnaire qui est la seule juste cause, et elle doit matérialiser les théories anarchistes, c'est-à-dire qu'elle a un caractère pédagogique. Elle doit faire modèle en même temps qu'elle donne du sens aux théories anarchistes. Quelles sont ses formes ? Elle se focalise au départ sur le vol, qu'on appelle aussi la prise ou la reprise sur le tas, en lien avec la critique ancienne de la propriété. Proudhon avait dit « la propriété, c'est le vol ». Le vol est précisément légitimé par ses adeptes comme étant non seulement un droit, mais carrément un devoir au service de la cause anarchiste. Il ne s'agit pas pour le voleur de s'enrichir personnellement, mais il s'agit avant tout d'une réponse aux premiers voleurs que sont les bourgeois, les propriétaires des instruments de production qui ne payent pas la plus-value produite par le travail des ouvriers et qui du coup s'engraissent sur ce travail. Cette justification de la pratique du vol montre que l'anarchie ne repousse donc pas la violence, même si elle n'en fait pas un système. Et si l'illégaliste ne pose pas ses actes comme révolutionnaire, bien conscient qu'une escroquerie ou un vol ne modifie pas l'asservissement économique des masses, son action n'en participe pas moins du désordre nécessaire à l'avènement de la révolution. Même ainsi justifié, le vol suscite des doutes de ceux qui ne voient pas en quoi ce geste de reprise individuelle, immoral, au même titre que le vol bourgeois, pourrait ouvrir sur des perspectives insurrectionnelles et amener à la révolution. Si la légitimité de cette première forme d'action illégale divise, le pire est à venir quand les actes de propagande par le fait atteignent leur paroxysme entre 1892 et 1894 avec la question de l'assassinat politique, qu'il soit individuel, ciblé ou plus aveugle, il s'agit alors de l'attentat. Cette pratique a été ensuite définie par Sébastien Faure comme une révolte à main armée contre l'ordre de choses établi, contre le régime social et contre les personnes représentant celui-ci. La radicalité du geste, particulièrement celle de l'attentat, suscite très vite, dans les rangs anarchistes et au-delà, un débat sur l'adéquation de la propagande par le fait avec les principes de l'anarchie. Cette forme de l'illégalisme interroge en effet les moyens de l'action révolutionnaire. Cette action peut-elle prendre le relais des idées en donnant l'impression d'en trahir les principes ? Un exemple de l'ambivalence des jugements se trouve dans cette analyse de Charles Malato en 1892. « J'ai toujours considéré la dynamite comme un engin médiocre et bavard, à réputation surfaite, bon à briser des vitres et à effrayer les imbéciles. Néanmoins, il est plaisant de constater la frousse qui s'est emparée des bons ventrus. » De fait, en cette fin de siècle, qui est par ailleurs assez fascinée par la violence, une espèce de psychose collective saisit la société à mesure que la dynamite devient la signature de l'anarchiste. La violence étant justifiée par des motivations révolutionnaires, sociales et politiques, une typologie des attentats se dessine même au fil des affaires, auxquelles on assigne des objectifs variables. Atteindre des symboles du pouvoir et de la domination, comme c'est le cas avec les attentats de Vaillant et de Caserio, procéder à des actes de vengeance ciblés, comme c'est le cas pour Ravachol, ou faire le choix de la violence terroriste aveugle, comme c'est le cas pour Émile Henry. Ravachol devient célèbre en mars 1892 par deux attentats qu'il présente comme des représailles à la répression de la manifestation du 1er mai 1891 et au procès d'anarchistes à Clichy qui s'en était suivi. Deux explosions ciblent les domiciles du président de la cour d'assises et du substitut du procureur, lequel avait requis la peine capitale à l'encontre des prévenus. Le 2 avril 1892, une loi modifie les articles 435-436 du Code pénal qui assimile le dépôt d'un explosif à une tentative de meurtre prémédité. La menace d'utiliser un explosif est en outre assimilée à la menace d'assassinat. Cette loi marque le commencement d'une multiplication des incriminations préventives et répressives qui provoque une accentuation des attentats au titre de représailles. On entre véritablement dans un cycle. Or, ce cycle des attentats finit par placer les anarchistes face à une difficulté éthique et face à un problème tactique. L'acte individuel ne peut prétendre qu'à une résolution limitée, particulière, de la question sociale. Les journaux anarchistes se divisent. Le père Pénard ne conteste pas l'illégalisme en soi. La révolte défend quant à elle la moralité de l'action révolutionnaire contre le danger que des voies de fait finiront par faire peser sur la cause anarchiste. Le libertaire tente enfin une sorte de voie médiane entre justification et dénonciation. Justification par opposition de principe à la légalité avec le topos anarchiste de l'arbitraire des lois, vecteur de l'autorité de l'État, mais dénonciation par les limites éthiques de l'illégalisme. Il faut un tempérament exceptionnel, peut-on lire, pour que l'illégalisme ne se laisse pas entraîner et finisse par être réduit au rang de déchet social. Lors de son procès, en avril 1894, pour l'attentat de l'hôtel Terminus, Émile Henry s'interroge sur le fait de tuer des innocents. « La bourgeoisie vivant de l'exploitation des malheureux, dit-il, devons-nous nous attaquer seulement aux députés qui font les lois contre nous, aux magistrats qui appliquent ces lois, aux policiers qui nous arrêtent ? Je ne le pense pas. Tous ces hommes ne sont que des instruments, n'agissent pas en leur nom propre. Leurs fonctions ont été instituées par la bourgeoisie pour sa propre défense. Ils ne sont donc pas plus coupables que tous les autres. » Jean Grave pointe la tension entre action et théorie, en rappelant que les actes révolutionnaires doivent être guidés par des principes. S'il admet le caractère absolu de l'idéal anarchiste, l'anarchiste doit tenir compte des relativités que nous crée le fait de vivre dans un état social qui n'est pas le nôtre, à charge pour chacun, ajoute Jean Grave, de déterminer si ces actes sont encore une manifestation de l'idéal anarchiste quand ils deviennent un renoncement et une lâcheté. Vous le voyez, il est difficile pour les anarchistes d'émettre un jugement moral sur la propagande par le fait. Ces considérations illustrent le malaise suscité par cette propagande, dont il est vite évident qu'elle éloigne de l'anarchie les masses angoissées par des journaux qui, eux, y voient un dérivatif face à des scandales politiques autrement plus gênants, je songe au scandale de Panama. En outre, la propagande par le fait isole l'anarchie du socialisme. Les auteurs d'attentats sont vus par les socialistes comme des agents de la réaction, les instruments du complot bourgeois qui détournent les masses des mouvements révolutionnaires. Les marxistes dénoncent pour leur part une guerre de personnes qui n'a rien à voir avec la lutte des classes. Les terroristes seraient en quelque sorte des idiots utiles d'un pouvoir qui instrumentalise les attentats pour réduire les libertés au nom de la nécessité de protéger l'ensemble de la société contre la menace que fait peser sur elle le complot anarchiste. Il faut dire que dans les réponses que le pouvoir oppose à la propagande par le fait, il n'hésite pas à mettre en cause les principes républicains qu'il vient de proclamer au nom justement de la défense de la République. On défend la République en limitant les libertés. Après l'attentat de Vaillant à la Chambre des députés, le 9 décembre 1893, Vaillant avait envoyé une bombe artisanale dans l'Assemblée. Il y avait eu des dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de mort. Eh bien, dès le 12 décembre 1893, une première loi modifie trois dispositions de la loi sur la liberté de la presse de 1881. Elle crée le délit d'apologie de crime, en même temps qu'elle prévoit la saisie ou la destruction des écrits et l'arrestation préventive de ceux qui les colportent. C'est la première des lois dites scélérates. Le 18 décembre, une deuxième loi modifie les articles 265 à 267 du Code pénal concernant les associations de malfaiteurs pour incriminer ce qu'on appelle l'entente. On ne mentionne pas les anarchistes, mais la loi punit toute réunion ou entente, formelle ou informelle, d'individus suspects. Des peines de travaux forcés, de relégation, de réclusion ou encore d'interdiction de séjour peuvent être prononcées, tandis que la délation est légalisée et encouragée. Sans les citer, vous les voyez, ces deux premières lois opèrent un tournant dans la répression des anarchistes. Je précise qu'une autre loi, votée le 18 décembre, incrimine la détention et la fabrication, sans autorisation ou motif légitime, de tout objet explosif ou incendiaire, et de toute substance entrant dans leur composition. Et le 19 décembre, une loi augmente le crédit du ministère de l'Intérieur pour l'année à venir, 1894, afin de soutenir l'action des commissaires de police. Dans le même temps, le président Carnot, président de la République, refuse d'accorder la grâce à Vaillant, qui est alors le premier individu du siècle à être condamné à mort sans avoir tué. Il est exécuté le 10 janvier 1894. Or, quelques mois plus tard, ce même président Carnot est assassiné à Lyon le soir du 24 juin 1894 par l'anarchiste italien Caserio. Cela motive le vote d'une dernière loi, le 28 juillet, qui vise cette fois directement ce qu'on appelle les menées anarchistes. Compétence est donnée aux tribunaux correctionnels et non aux cours d'assises, il s'agit d'éviter finalement le jury populaire. Compétence est donnée aux tribunaux correctionnels donc pour juger toute propagande anarchiste et antimilitariste. Le juge peut en outre prononcer des peines accessoires de relégation selon le casier judiciaire du prévenu. Enfin, parce que les tribunaux étaient devenus pour les anarchistes un moyen de diffuser leurs idées, la loi permet d'interdire la reproduction des débats dans la presse lorsque le fait incriminé présente un caractère anarchiste, et ce afin que la retranscription des défenses des prévenus ne puisse constituer en elle-même un moyen de diffusion de leurs idées. La série des lois scélérate est close et elle vise à empêcher toute propagande anarchiste dans la presse, dans la vie publique, mais aussi dans la vie intime, devant les tribunaux autant que dans les prisons. Je précise que le procès de Caserio débute quelques jours plus tard, il sera condamné à mort et exécuté sans avoir demandé la grâce le 16 août 1894. Alors ces lois scélérates ne sont pas l'apanage de la France. D'autres gouvernements en Europe connaissent des attentats similaires et votent des lois analogues, en Espagne, en Italie, en Suisse. Les législations et les polices européennes s'organisent contre la propagande par le fait. Or ces lois désignent toutes un ennemi commun, l'anarchiste, contre qui la répression est intensifiée, mais elle est en outre élargie d'une pratique préventive de surveillance remise à l'administration. L'intensité de la répression et des mesures préventives est justifiée par la menace d'un complot anarchiste mondial, alors même au passage que pour ce qui est de la France, dans les procès qui sont intentés contre les anarchistes, on leur refuse la qualification de procès politique pour ne pas donner l'impression de reconnaître la légitimité de leur idéologie. Dans une brochure intitulée « Les lois scélérates », Francis de Pressensé, qui est le fondateur de la Ligue des droits de l'homme, explique que les mesures adoptées ne sont rien moins que la violation de tous les principes de notre droit. Et pour Léon Duguy, si elles sont dirigées contre les anarchistes, ces lois ont eu pour résultat de mettre en péril les libertés élémentaires de tous les citoyens. Beaucoup plus radicaux, les anarchistes, quant à eux, retournent ce thème du complot qu'on invoque pour justifier les lois scélérates. Comme les complots, disent-ils, n'ont jamais existé que dans les cerveaux atrophiés de ministres en mal de répression, il faut leur donner un semblant de vie. Et c'est la police secrète qui est chargée de fournir les premiers documents indispensables à l'action judiciaire. Or, personne n'ignore l'intelligence et la sagacité de la police. Celle-ci ne s'embarrasse pas de préjugés et d'honnêteté sentimentale. Il faut des preuves, des documents, elle les trouvera. Et si elle ne les trouve pas, elle les fabriquera. Mais elle les fabriquera avec une telle grossièreté qu'à la première analyse, le juge le plus obtus et le plus attaché par ses fonctions à rechercher les sympathies gouvernementales est obligé d'avouer le faux et de classer l'affaire. C'est ainsi, dit-on, qu'en France se terminent certains complots contre la sûreté de l'État. De fait, quelque temps après l'attentat de Lyon du 24 juin 1894, s'ouvre devant la cour d'assises de la Seine le procès des 30, donc 30 prévenus, jugés tous ensemble. Ce procès s'ouvre le 6 août 1894. C'est la première utilisation en fait des lois scélérates. Mais ce procès se solde par un acquittement quasi général, le jury ayant refusé de suivre le ministère public dans l'assimilation pure et simple de prévenus qui n'avaient manifestement rien à voir les uns avec les autres. Alors que la France entre dans ce qui va devenir l'affaire Dreyfus et qui commence justement à la fin de l'année 1894, la disparition de la propagande par le fait ne s'explique pas seulement par la répression judiciaire. Une thèse d'un de mes doctorants va éclairer le rôle de la police administrative qui a développé de multiples moyens de surveillance, en particulier par l'inscription des suspects dans des fichiers de police. Mais le calme va surtout venir des anarchistes eux-mêmes qui vont progressivement dépasser leur division sur la propagande par le fait et rejeter la pratique terroriste en intégrant les syndicats ouvriers à partir desquels ils vont essayer justement d'organiser l'évolution vers la révolution. Si l'idéologie met l'accent sur les croyances collectives plutôt qu'individuelles, la propagande par le fait a ceci d'intéressant qu'elle offre une reconnaissance au militantisme en affirmant le rôle de l'acteur individuel par rapport au théoricien. Cette pensée en acte rompt avec les normes de comportement politique classiques, disons, et postule la capacité pour des actions individuelles d'inspirer des révolutions. Elle est en outre dans le présent de l'action quand les idéologies politiques se concentrent surtout sur l'avenir. Les anarchistes accordent une attention particulière à l'esprit de rébellion comme explication fondamentale du déclenchement des révolutions, en refusant au passage une révolution qui se limiterait à un simple changement de gouvernant. Les débats ont montré que les anarchistes sont en somme moins des illégaux que des allégaux, privatifs, qui s'attachent à vivre en fait en dehors de la loi, dans les interstices de la loi, mais pas contre elle. L'anarchiste allemand Gustav Landauer, qui a vécu entre 1870 et 1919, considère que l'État n'est pas quelque chose qui peut être détruit par une révolution, mais c'est une condition, un certain type de relation entre les êtres humains, un mode de comportement humain. Nous ne détruirons pas l'État en contractant, cet État en contractant d'autres relations, en nous comportant différemment, bref, en n'ayant pas recours à l'État. S'agit-il, ce faisant, d'une idéologie ou d'une méthode ? Dans un texte intéressant et que je vous mets en document joint, Dave Neal utilise une métaphore que je trouve assez féconde. Puisque l'ambition des anarchistes est de mettre en œuvre une pratique de la révolution sociale, cet objectif suppose, dit-il, de disposer d'une boîte à outils, c'est-à-dire une méthode, plutôt que d'une carte routière, c'est-à-dire une idéologie. Dans une certaine mesure, l'Encyclopédie anarchiste, qui est un texte qui a paru entre 1825 et 1934, visait à fournir un peu les deux, boîte à outils et carte routière. Sébastien Faure voulait en effet offrir à ses camarades un moyen d'organiser leurs idées, de les mettre en ordre, de les renforcer et de diffuser surtout cette doctrine sociale qu'est l'anarchie, le plus souvent ignorée, sous-estimée, déformée, travestie, ridiculisée, particulièrement après l'épisode de la propagande par le fait. Elle n'est pas un catéchisme dogmatique, mais un guide juste et sûr, une ressource précieuse pour éviter toute confusion avec des systèmes de croyances plus codifiés. Et Faure ajoutait que, ennemi de toute contrainte, l'anarchiste n'impose pas, il expose, il propose, il attire l'attention, il incite à la réflexion, il inspire la méditation. Le projet d'encyclopédie anarchiste n'a pas pu être mené à son terme, mais ce texte aurait dû être une mine d'informations dans laquelle chaque lecteur aurait puisé à pleine main des indications capitales pour promouvoir l'action anarchiste. C'est un peu comme si, après les mines, les dynamiques de la propagande par le fait, eh bien, l'anarchie s'était réorganisée autour d'un projet, et un projet idéal, disons, pour proposer une espèce de mine d'informations aux anarchistes pour leur pratique révolutionnaire. Voilà, je m'arrête sur ce point. Merci pour votre attention. Nous avons donc fait un état, dans le premier podcast, des rapports du droit avec l'anarchie. On a apprécié ensuite la façon dont les anarchistes appréhendent la violence de la propagande par le fait. Et je vous invite désormais à continuer l'audition des autres podcasts de cette série.